on va commencer par Chrysostome Gouriot. Alors, de la bio, hein, qu'on peut lire en quatrième de couverture du dernier roman de Chrysostome, l'éditeur se limite quand même au strict minimum, mais ça peut donner peut-être une idée du bonhomme. Chrysostome Gouriot, déjà, c'est comme ça qu'il s'appelle ou se fait appeler ?
Non, c'est comme ça que je m'appelle.
Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, Chrysostome Gouriot. Né en 1970 à Salonique. Alors je dirais que c'est en Grèce, mais actuellement, avec la Grèce, on est sûr de rien.
Ouais, voilà, c'est ça.
Voilà. Et en Grèce, jusque quand ?
Oh, jusqu'à il y a très longtemps.
C'est-à-dire ?
En fait, jamais.
Voilà. C'est un hasard, quoi.
Voilà.
Un accident, peut-être. Alors, l'éditeur rajoute... l'éditeur, c'est Baleine, hein, on ne rigole pas. L'éditeur rajoute...
Si, justement, peut rigoler.
On peut rigoler. L'éditeur ajoute, Chrysostome Gouriot s'y connaît en philosophie. Il a raté 3 fois l'agrégation.
Bah, il y en a qui persévèrent, ouais.
Bah, donc c'est aussi... c'est tout à fait véridique.
Ça c'est véridique. Il y a des parties qui ne sont pas tout à fait véridiques dans la biographie qu'on peut trouver sur le quatrième de couverture ou sur le site de mon éditeur, mais ça c'est véridique, ouais. J'ai fait des études de philosophie. Obtenu une maîtrise avec brio, puis après je me suis enfoncé dans les méandres des préparations des concours pour devenir enseignant et j'ai échoué 3 fois à l'agrégation. D'ailleurs j'en remercie grandement les jurys d'agrégation qui m'ont reclassé parce que sinon je serais peut-être pas là aujourd'hui.
Alors ensuite 10 ans libraire.
Voilà,
ouais. Oui.
Voilà.
Donc bah, ça c'est juste aussi. Alors qu'est-ce qui n'est pas juste dans la bio ?
Ah bah ça je vais pas le dire, sinon ce serait pas drôle.
Bon d'accord, c'est la date de naissance peut-être. Alors le roman hein, dont il est question, dernier roman, il y a eu un poulpe hein, je pense auparavant, toujours voilà. Chez Baleine, mais là le roman dont on va parler s'intitule Le Crépuscule des Guignols. Le titre est gentil, mais bon on pourrait dire que en allant vite, c'est un polar philosophique, on va y revenir, où sont dégommés tous les gourous de la philosophie et leurs adeptes. Alors, en matière de polar philosophique, le gourou, et c'est pour ça qu'il est avec nous, c'est quand même Jean-Bernard Pouilly, auteur que l'on ne présente plus du roman noir, figure hein, du roman noir français, maître du genre, et donc connu entre autres pour un roman intitulé Spinoza, Encul, Hegel. Alors est-ce qu'on peut dire qu'avec le crépuscule des guignols, Gouriot, Chrysostome Gouriot, Encul, Jean-Bernard Pouilly?
Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça dans la mesure où l'animal se laisserait peut-être pas faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a pour moi une histoire de filiation derrière ça, parce que ce roman, Spinoza enculé gueule, c'est peut-être le premier polar que j'ai lu. À l'époque, je préparais le CAPES de philosophie. Et des amis venant manger un soir chez moi m'ont offert ce roman avec une petite dédicace pour que le Chrysostome encule le CAPES. Bon, il se trouve que je me suis fait enculer par le CAPES, mais voilà. Et en fait, ça a commencé comme ça. J'ai découvert les œuvres du monsieur. Je me suis lancé dedans. J'ai découvert toute la bande qui allait avec, les Rénal, les Deninx, tous les vieux du polar français, et j'ai jamais pu en décrocher.
Alors, Jean-Bernard. Donc, oui. Tu as lu Le Crépuscule des Guignols ?
Oui.
Verdict ?
Je suis furieux. Non, je suis très content parce que ça prouve que quand même l'épistémologie a de l'avenir devant elle et que quand on commence à travailler sur les vrais auteurs, c'est-à-dire Spinoza, Hegel, Malebranche, Maine de Biran, tout ça, on en arrive obligatoirement à des romans qui ressemblent à des polars de base dans lesquels on prend autant de plaisir. Donc c'est bien que quand même, ça fait maintenant 30 ans, le même principe surnage. Quoi. Et parce que maintenant, si on voulait frimer avec la littérature, on pourrait dire, je sais pas, faire des romans qui s'appelleraient Nadine Morano encule, je sais plus qui, Frédéric Lefebvre, mais ça serait moins marrant, parce que ni Nadine Morano, ni Frédéric Lefebvre ont écrit des textes aussi pénétrants, si j'ose dire, que Spinoza ou Hegel. Tout ça, c'est une introduction, hein, bien
oui,
évidemment.
Oui. On passe aux choses sérieuses ensuite. Donc, une filiation quelque part là.
Ah ben oui,
un
oui,
prolongement non. Même peut-être.
Hein. Il reprend pas vraiment les mêmes principes, mais un peu le même tableau comme ça. Mais il en fait autre chose, c'est-à-dire il prend d'autres thématiques, d'autres personnages, mais on revient au même. En fait, on en revient à une, et ça c'est ça qui m'intéresse. On en revient à une lutte de l'éthique contre l'esthétique. Et ça m'intéresse beaucoup parce que l'esthétique elle est déjà dans la stylistique du roman, donc elle est incontournable, j'allais dire impénétrable, mais bon, c'est un peu difficile à juger comme ça, mais elle est incontournable. Donc après, comment amener l'éthique? Où arrive l'éthique, surtout en ces temps extrêmement compliqués où tout le monde trahit tout le monde? Là, elle est présente, hein, un peu comme dans ce que j'avais voulu faire. Elle est présente, on n'agit pas selon des principes esthétiques ou autres, ce qui est souvent le cas d'ailleurs des romans noirs, on agit selon les principes éthiques. Okay. L'éthique n'étant pas la morale, hein, faut bien faire attention. C'est-à-dire c'est la même différence qu'entre stratégie et tactique. Bon, on peut faire une émission beaucoup plus longue là-dessus, mais...
Il y a quelques philosophes là dans l'assistance, je pense qu'on fera des explications après.
Comme moi, ils se situent surtout au niveau de la stratégie. La tactique, c'est un truc de nain. Enfin bon, c'est un truc... Bref. Patrick Buisson est un homme tactique. C'est pas très intéressant.
C'est le long terme et le court terme, quoi. C'est non.
La stratégie, c'est une certaine manière, la manière de voir le but à atteindre. Alors que la tactique, c'est les moyens qu'on prend pour l'atteindre. C'est pas pareil.
Alors, Chrysostome, le titre, il est gentil quand même, le crépuscule des guignols.
Oui, mais enfin, quand même, hein, parce que moi, guignol, j'ai pris ça pour moi, hein, quand même.
Ah.
Oui, ben oui.
Non, alors, ça n'a rien à voir. En fait, au départ, je voulais intituler ce livre-là « Le cri pur de la res antique ». Alors, res, c'est le mot latin pour dire la chose. Donc, était un vilain jeu de mots sur la critique de la raison pure de Kant. Et mon éditrice m'a dit « Moi vivante, jamais ». Donc, il a fallu trouver un autre titre qui soit un autre jeu de mots sur un titre philosophique. Et puis, il y avait ce formidable livre de Nietzsche, « Le crépuscule des idoles ». Et je me suis dit, le crépuscule guignol, voilà, on est en pleine période politique assez tendue, où on voit des gens censés gérer une crise économique et sociale avec des millions dans les mains. Donc voilà, ça me paraissait assez, assez intéressant et pertinent de l'intituler comme ça.
Et en même temps, est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui intituler un livre Spinoza enculé Hegel?
Oh oui, enfin oui, mais enfin ça a déjà été fait. Hein, là.
Oui, non, mais...
Voilà, c'est le procès tout de suite. Hein.
Oui, l'inverse.
Non, ce qui est intéressant dans le bouquin de Chrysostome, c'est qu'il y a un aperçu très éclairant sur une pensée de Kant qui est la différence entre les idées a priori et les idées a posteriori. Je vois que le public est totalement effondré.
Est-ce qu'il y a une réaction dans le public, là, une intervention?
Si vous relisez... Si vous
parce
relisez
que le niveau est quand même assez, assez élevé. Hein, oui.
Il faut
Eric,
souvenir,
si tu veux intervenir... Hein, bon.
Il faut se souvenir qu'on nous a fait chier avec la troisième méditation de Descartes, où il prouve l'existence de Dieu. Je t'en souviens quand tu étais à l'école.
Oui. Déjà.
Dieu est parfait, donc une de ses perfections est son existence. Bon. Et alors, les philosophes, là, ils l'avaient dans l'os, comme Hegel d'ailleurs. Mais et il n'y a que Kant qui a démonté cette affirmation en disant quand même, faut faire attention, il y a les idées a priori, les idées a posteriori.
Mais oui, Chrysostome.
Non, je voulais dire que, en fait, contrairement à ce qu'essaye de faire croire Jean-Bernard, mon livre n'est pas un traité de philosophie. Même si l'objectif en faisant ce roman, c'était d'essayer de montrer que la philosophie peut être à portée de la plupart des gens, de la plupart des lecteurs, et que c'était pas une science dont il fallait avoir peur, quelque chose d'obscur et de totalement incompréhensible. Alors que en fait, voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre à portée de tous et qui est assez en adéquation, en tout cas à mon sens, avec l'idée de la construction du polar.
Par exemple, une idée a priori, c'est que le sarkozysme peut être bon pour la France. A posteriori, on s'aperçoit que c'est pas vraiment ça, quoi. Donc tout est là. Tout est dans ce...
Jean-Bernard, est-ce que vous pourriez dire alors que Spinoza, enculé, Hegel, les petites graines déposées par le roman, hein, bien entendu, Spinoza, enculé, Hegel, portent aujourd'hui ses fruits et donc stratégiquement, c'était un bon coup.
Ah, oui. Elle est bien, elle arrive de loin, mais elle est bien. Non, mais moi, j'ai jamais fait de philo, j'y comprends rien. Et c'est trop pour moi. Je trouvais que c'était un joli titre. Et ça fait 35 ans que je me le traîne. Et non seulement 35 ans que je suis obligé d'argumenter là-dessus ce dont je suis incapable, mais en plus, il y a des jeunes qui relancent le...
Voilà, c'est bon. Quand je parlais d'un bon coup, c'est ça, hein, un bon coup littéraire, ouais. Où tu vois, donc...
Pour moi, c'est une malédiction, hein, d'une certaine manière. C'est une malédiction. Alors, mais cela dit, quand même, personne, 35 ans après, n'a réussi à prouver que c'était le contraire.
Que, c'est, une que forme, soit, c'est une forme d'immortalité aussi.
Que ce soit Hegel qui encula Spinoza. Donc, d'ailleurs, ce que m'avait... écrit le comité de rédaction des éditions du Seuil en disant votre roman est très intéressant mais l'esprit de la maison serait plutôt que Hegel encula Spinoza. C'est une lettre de refus formidable.
Chrysostome, par rapport à cette lettre de refus, il y en a eu des lettres de refus pour le Crépuscule des Guignols
Alors il n'y en a pas eu, parce que j'ai eu la chance d'avoir une éditrice et un éditeur formidables et intelligemment compréhensifs, qui ont quasiment tout de suite accepté mon projet.
Non mais les éditions Baleine enculent tout le monde, donc
voilà, c'est ça,
c'est ouais. Un peu dans l'ordre des choses. Ouais. Hein.
Donc oui, je disais Jean-Bernard Pouille, donc voir ce prolongement quelque part de Spinoza en cul égal, c'est une forme d'immortalité. À l'Académie française, il y a les immortels, donc Jean-Bernard Pouille, un immortel du roman noir.
Oui, mais enfin, t'as des révélations à faire sur qui encule qui à l'Académie française.
Il y a des places à prendre, je pense. Ouais.
En tout cas, Poivre d'Avant n'a pas réussi à y rentrer, ce qui est quand même, dans notre monde pourri et notre période difficile, une bonne nouvelle.
Alors on profite de t'avoir au micro de PFM pour peut-être parler un petit peu, Jean-Bernard, de ton travail actuel, des prochains romans, de tes...
Non, je fais rien là. Tu fais rien ? J'arrête, ouais.
C'est tout ?
J'arrête un peu, je m'y remettrai peut-être. Mais je me suis rendu compte l'autre jour que j'ai écrit 100 bouquins, et ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, surtout au monde, à la politique, au climat, tout ça. Donc, les 100 bouquins que j'ai écrits ne servent absolument à rien.
Mais
ça m'a foutu un coup de blues, quand même.
Tu écrivais pour ça, avec la...
Ah oui, moi je pensais lutter contre la couche d'ozone. Je pensais avoir une... comment ça s'appelle, un bilan carbone, tout ça, voilà. Zéro.
Chrysostome. Jean-Bernard a son propre regard sur son travail. Moi, j'en ai forcément un autre en tant que lecteur. Et dans la mesure où il m'a quand même profondément influencé et influencé mon écriture, je me permettrai d'être légèrement en désaccord avec lui. Dans la mesure où s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas écrit ce qu'il a écrit, je ne serais pas là devant ce micro à discuter avec vous. Donc je pense qu'il y a quand même... il y a quand même un héritage, que ce soit au niveau des auteurs ou même des lecteurs, et qu'il a profondément influencé un grand nombre de personnes.
C'est beau, ça.
Ça fait peur, oui. Mais non, je suis très content. Je suis très content. Puis j'adore son prénom, Chrysostome. Et il faut penser aux Grecs. Les Grecs ont des prénoms formidables. J'ai un autre pote grec qui s'appelle Théophraste Economides. Comment avoir un nom plus beau que celui-là, quoi.
Chrysostome, projet d'écriture, là,
Oui, on a quelques-uns, quelques-uns en route.
Toujours
mais,
avec la philosophie là.
Non, je pense que ça, j'en ai terminé. Ou à moins que plus tard, je retrouve un sujet qui puisse me porter. Mais non, il y aura, j'espère, d'autres projets. Enfin, il y en a en cours, mais j'espère d'autres projets publiés, oui.
Alors, parmi les éminents philosophes, les éminents philosophes de la salle, des questions peut-être faut en profiter, là. Hein. On a quand même deux grands spécialistes.
Moi, j'ai un projet, quand même.
Eric vient au micro. Oui, prend le micro. Donc, une question du public.
Ben, d'abord, un petit témoignage. Une année désespérée par le fait que mes élèves ne lisaient ni Bergson, ni Hegel, ni Kant... Je leur ai conseillé Spinoza en cul et gueule. À la fin de l'année, ils m'ont offert la suite, le retour.
À sec.
Et bon, voilà. Donc je me disais, est-ce que le bouquin de Chrysostome, c'est un bon bouquin à conseiller aux élèves
pour préparer le bac?
Alors ça, c'est pas forcément à moi de le dire. En tout cas, je l'espère.
Non, mais avec Bergson, on peut faire plein de trucs. Hein. On a besoin de Bergson, on Harley Davidson, tout ça. Il y a plein de blagues qu'on peut faire avec Bergson aussi.
Eh bien, Chrysostome, Goriot, merci. Donc, tu signes encore un moment aussi hein, sous le chapiteau des auteurs. Jean-Bernard, pareil. Même si tu m'as dit qu'il fallait qu'on te libère pour 18h30 parce qu'il y a un concert punk.
Non, mais si je peux aller, je vais le voir, ouais. Il y a un concert punk. Je sais pas, c'est Xavier, le tatoueur de Valenciennes, qui est venu me prévenir qu'il y avait un concert punk.
Donc ça, c'est sur l'espace du son du porte-voix hein, sur le parking de l'abbaye qui assure une série de concerts. Merci à tous les deux, plein de choses.
Merci à toi.
Voilà, donc c'était en direct du Salon du Livre d'Arras, Radio PFM, Studio Mobile, une première hein, pour Radio PFM. D'autres rendez-vous encore peut-être, Bernard? Non, c'était le dernier rendez-vous en direct. Eh bien, merci à vous. Et à très bientôt, au revoir. Une fois, deux fois, elle n'est plus là.